René Mézeroy, l'interdit. Le dîner était commencé et le président de la table racontait de sa voix éraillée, au milieu des rires bruyants, une grasse histoire d'Afrique, lorsqu'un grand valet en livrée, cravaté de blanc, irréprochablement glabre, apporta au capitaine Léoville une petite lettre scellée d'un cachet armorié. Léoville déchira l'enveloppe d'un geste impatient, parcourut les quatre pages, pâlissant à chaque ligne et le front plissé de rides douloureuses. Et la lecture finie, il heurta la nappe d'un coup de poing exaspéré qui secoua les bouteilles à demi vidées. « Sacre bleu ! » s'écria-t-il, « l'affreuse pécore, les stupides gens !» Les officiers se regardaient sans comprendre la cause de cette exclamation violente. On le questionna discrètement. Il continua à phrase lente et hachée par la colère. « Oui, vous ne savez pas que cette excellente douairière de Sainte-Houlaine, la plus incomparable marieuse en ce monde et dans l'autre, et qui enrégimenterait le diable lui-même dans la grande confrérie, c'était imaginé, un soir de carême entre deux tasses de thé, de vouloir me pendre la corde au cou, comme au commun de ses amis. Alors un roman s'ébaucha très vite, de sauterie en rallye papers, de dîner en joyeuse partie, sur l'herbe, et le premier chapitre en fut si doux que la douairière demandait avant-hier au nom de son ami miraculeusement converti la main de mademoiselle Jacqueline d'Orchère. « C'est ici que Perrette casse son pot au lait, et parbleu, pourquoi ne vous dirais-je pas la lettre de la douairière? L'affront grossier que j'ai reçu vous atteint tous, messieurs. »« Lisez, lisez !» interrompit-on d'un bout à l'autre de la table. Les conversations se taisaient. Les fourchettes ne remuaient plus. Un silence lourd s'élargissait à travers la salle empuantée du mess. Et les camarades, intrigués par les paroles du capitaine, attendaient avec une curiosité nerveuse l'explication de l'énigme. « Bien voici ce que m'écrit Madame de Sainte-Houlaine. Mon cher baron, vous vous êtes trop souvent moqué de la bêtise humaine pour ne pas rire encore de l'inattendu dénouement qui renverse nos beaux châteaux en Espagne. Tout est à recommencer, mon pauvre ami. Ces d'Orchères sont des sots qui n'ont jamais mis le nez à la fenêtre, qui se cloîtrent au fond de leur hôtel sombre et qui regrettent le bon vieux temps où l'on ne voyageait qu'en diligence et où la province comptait pour quelque chose. « Notre fille n'épousera de sa vie un officier, » m'a sèchement répondu la comtesse, sans bonjour ni bonsoir. « Cependant, aucun parti... Vous plaidez une cause jugée, chère madame. » Tous les parents savent à quoi s'en tenir sur ces beaux messieurs. Pas d'éducation, les trois quarts sortis de rien, pas la moindre religion et tous les vices. N'oubliez-vous rien, comtesse ? Ai-je demandé malicieusement. Oh, vous souriez, madame. Mais allez dans tous les salons de la ville, interrogez les Pamponnelles, les Noirs Castel, les Vrais Croix et les autres, tout le monde vous chantera la même montagne. C'est qu'en effet, baron, les hussards sont bien mal notés à Saint-Martin-Joux. On vous reçoit, on vous invite, on vous salue, mais que ne pouvez-vous écouter les méchants propos, les moqueries ironiques, les potins saccadés de sous-entendus qui se croisent derrière vous? Je vous jure que vos plus franches illusions s'envoleraient à tire-d'aile pour ne jamais revenir. Quant à moi, je renonce décidément à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et à vous marier. Vous m'en voudrez pas, de grâce, et vous viendrez encore de ci, de là, boire une tasse de thé chez votre vieille amie. Eh bien, conclut Léoville, que dites-vous de cela? C'est un fait, fit le sous-lieutenant Molbar. Sale colon, grogna le président. Messieurs, dit le capitaine Bonsoleil en se levant, je vous propose une chose. Laquelle? Eh bien, que chacun de nous, dès demain, commence une enquête sérieuse et absolument secrète pour prouver la véracité des faits annoncés par Madame de Saint-Poulaine. Dissimulons une semaine. Servons-nous des soubrettes de nos valseuses habituelles et de nos maîtresses. Et le jour où il sera impossible de douter, on se réunira chez le colonel pour arrêter une ligne de conduite quelconque. Approuvé, approuvé, répétèrent tumultueusement les officiers. Et l'on courut au café. La semaine suivante, le 40e hussard savait tout ce qu'il avait voulu savoir. Les soubrettes avaient bavardé, les valseuses avaient rougi, les maîtresses avaient pleuré. Et après une interminable réunion dans la salle des écoles, au quartier, on avait adopté à l'unanimité, article par article, un règlement qui était ainsi rédigé. Considérant que la société de Saint-Martéjoux a calomnié et calomnie encore le corps d'officiers du 40e régiment de hussards, messieurs les officiers supérieurs, capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ont décidé. Article 1er. À partir de ce jour, aucun officier ne fera de visite, n'acceptera d'invitation, ne saluera des personnes étrangères au régiment. Article 2. Aucun officier n'aura de relations amoureuses, platoniques ou autres, avec les dames, les demoiselles, etc., etc., de la ville. Article 3. Les officiers s'engagent sur l'honneur à exécuter les deux premiers actes du dit règlement. De ce jour, l'interdit pesa sur la ville de Saint-Martéjoux. Les officiers du 40e hussard, fraternellement unis, observaient avec un soin jaloux les articles du règlement. On ne dansait plus dans les antiques hôtels de la rue des Nobles et de la place Sainte-Opportune. Les jeunes filles ne rêvaient plus le soir en regardant leur carnet de bal des beaux cavaliers qui les avaient enlacés d'une sensuelle étreinte dans le tourbillon fou des valses. Les alcôves ne s'éveillaient plus au claquement bienheureux des baisers échangés. Et le matin, quand le régiment traversait le quartier haut, la fanfare jouait sur un rythme sauteur de pas redoublés, la mélancolique complainte ne diront plus au bois, les lauriers sont coupés. Pendant ce temps-là, les officiers dansaient chez le colonel, organisaient des comédies, montaient des pique-niques sous bois, faisaient des visites aux femmes des camarades. Le régiment, toujours le régiment et rien que le régiment. Les douairières ne décoloraient pas. Les jeunes filles se lamentaient éperdument, tourmentaient leurs parents. Les maris perdaient la tête à écouter les jérémiades de leurs femmes. L'ennui tombait, étendant sur toutes les maisons son suaire gris. Et l'on eût dit de cette ville orientale des mille et une nuits que les djinns ont endormi sous leurs ailes malsaines. Enfin, la douairière de Sainte-Poulaine négocia la paix habilement. La comtesse d'Orcher accorda la main de sa fille à Léoville. Le règlement fut aboli. Les jeunes filles retrouvèrent leurs valseurs. Les jolis infidèles, leurs amoureux. Tout le monde se réconcilia au mariage de Léoville. Le curé prononça un superbe sermon sur les Maccabées et sur le rôle de l'armée dans la civilisation. Les hussards pardonnèrent et l'on cotillonna à corps perdu toute la nuit. Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais on se souviendra longtemps des trois fameux articles qui excommunièrent la société de Saint-Martéjoux, et du second article surtout.